Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fais pour un.
Orange juice with that ice, madame. Thank you.
L'été comme jamais.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Qu'est-ce que la neige? Un peu de froid et beaucoup d'enfance, écrit le poète Christian Bobin. Alors là, vous vous dites que j'ai lâché la rampe à vous parler de neige en plein mois de juillet. Mais non, c'est celle qu'on regarde tomber sous cloche qui m'intéresse. La neige qui recouvre une tour Eiffel miniature ou une figurine de chaton. La boule à neige, voilà l'objet de ma fascination. Une enfance portative, un objet qu'on dit volontiers kitsch ou désuet ou ringard. Les boules à neige sont moches. Je mesure en la prononçant le ridicule de cette phrase. Moche pour qui? Moche pourquoi? Qu'y a-t-il de plus subjectif et de plus arbitraire que le bon goût? C'est un mot qu'il faut secouer comme une boule à neige pour prendre le temps de l'observer, le mot « moche ». Il y a parfois des objets, des bibelots, des vêtements qu'on trouve moches et qu'on adore pourtant. Mais cela a-t-il seulement un sens d'aimer quelque chose au second degré? S'intéresser aux moches, c'est parler de domination, de mépris de classe, de dédain social, de transgression aussi. Oui, il y a des petits flocons de politique dans cet adjectif de rien du tout. C'est parti, vive le moche!
Dorothée Barba sur France Inter.
Deux invités sont avec moi en studio en direct. Ils sont beaux, ça va sans dire. Bonjour Alice Pfeiffer.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes journaliste de mode et vous avez publié chez Flammarion Le goût du moche, un manifeste du mauvais goût, une réflexion sur la façon dont on emploie ce mot moche. Et votre point de départ dans cet ouvrage, c'est votre collection de trucs moches. Alors je voudrais vous demander d'emblée de nous citer quelques objets de cette collection.
Alors j'en ai plusieurs, j'ai trois paires de crocs dont une au pied, certains avec des faux diamants dessus. J'ai une tasse qui ressemble à des toilettes dans lesquelles on peut prendre son petit déjeuner.
Oh, génial.
Oui, j'ai une assiette de moi qui porte une saucisse géante en Géorgie. Il n'y avait pas la place pour marquer tout Géorgie, j'ai dû marquer Orgie.
Combien de pièces compte cette collection?
Oh, c'est à moitié chez mes parents, à moitié chez moi. C'est au fil des années, dans toutes les villes où je vivais. Des capsules de bière, un string avec des cristaux qui font un petit lapin Playboy. Donc ça touche à beaucoup de strates de moches différents et beaucoup de moments dans ma vie, et on voit où est-ce que j'en étais dans ma féminité et ma déconstruction à cette époque-là.
Voilà, vous interrogez dans ce livre ce que ce mot effectivement porte en lui de mépris social ou de jugement de valeur sur ce qu'est le bon goût et le mauvais goût. C'est pas facile d'illustrer un tel bouquin, Alice Pfeiffer. Votre livre est-il moche en tant qu'objet?
On a tout fait pour.
Ouais.
On a tout fait pour parce que ça fait partie aussi de continuer l'expérience de la lecture et de proposer un objet qui continuerait finalement et qui viendrait clore le propos. Mmh. On peut pas proposer quelque chose qui serait joli pour finalement dire le contraire. Ce serait
donc c'est violet et jaune un petit peu.
Mmh. Oui. C'est pas pour ne pas prendre de distance par rapport au contenu. Et du coup ça passe d'espèce d'un violet électrique à un jaune des plus ragoûtants. Il y a une bouche à l'intérieur qui a l'air d'être sur le point de vomir.
Il y a un nez. On voit uniquement les narines.
Oui, exactement.
Illustration signée Aline Zalco, qu'on félicite au passage parce que c'est une gageure d'illustrer livre sur le moche. Mon deuxième invité est auteur et metteur en scène de théâtre. Bonjour à vous, Mohamed El Khatib.
Bonjour.
Bienvenue. Boule à neige, c'est un spectacle que vous avez créé avec l'historien Patrick Boucheron. Il sera en tournée bientôt à Marseille, à Rennes, à Nantes et à Aix-en-Provence dans les mois qui viennent. Comment d'écrire ce spectacle? C'est une discussion avec Patrick Boucheron au milieu de dizaines de boules à neige. Vous prenez cet objet comme métaphore d'un monde sous cloche et vous en profitez pour raconter des histoires de collectionneurs et de collectionneuses, pour interroger les prétendus bon goût et mauvais goût. Les boules à neige sont-elles des théâtres miniatures, Mohamed El Khatib?
Oui, c'est des théâtres miniatures, des reflets de notre intimité. Et on se rend compte en creusant que notre intimité n'est rien d'autre qu'une construction sociale, de choses qu'on a plus ou moins intégrées, plus ou moins digérées, et dont la question du beau, qui fait partie de voilà, qui est une construction comme une autre. Et ces petites miniatures, elles recèlent des vies, elles recèlent des histoires. Et ce qui nous intéressait, c'est que derrière ces objets un peu moches, un peu désuets, un peu ringards, il y a à chaque fois des histoires, des récits de famille, des souvenirs nostalgiques intimes. Et ça, c'est très émouvant.
Vous avez en effet, pour préparer ce spectacle, rencontré beaucoup de collectionneurs de boules à neige, des hommes et des femmes qui sont filmés. Les vidéos ponctuent votre spectacle. Si je vous avais posé la question avant ce spectacle, avant même la préparation, qu'auriez-vous répondu à cette question? Est-ce que c'est moche, une boule à neige, Mohamed El Khatib ?
Sans doute que j'aurais naïvement affiché mon mépris en disant que c'est vraiment un objet quand même. C'est le summum du ringard. Et en même temps, je me serais méfié de moi-même, puisque seuls les objets radicalement de très mauvais goût sont susceptibles de devenir des objets d'art.
Mais les collectionneurs aussi aiment ces objets au second degré souvent. C'est ce qu'on découvre dans votre spectacle.
Mais les deux, au premier degré et au second degré, c'est-à-dire ce qu'on se rend compte, c'est d'abord une géographie. Quand vous allez chez les collectionneurs de boules à neige, au rez-de-chaussée, au premier étage, vous avez les collections nobles. Je pense à Jérôme Monchal, qui est au premier étage, il a les esquisses du concours de Rome, 30 par 40. Mais si vous descendez à la cave, là, vous trouvez les passions honteuses, les collections un peu modérément assumées, et les collections. Et c'est là que vous trouvez les 3, 4 000, 5 000 boules à neige.
Y a-t-il une boule à neige dans votre collection de trucs moches, Alice Pfeiffer ?
Non, tout à fait. Il y en a une qui vient de Paris, devant le parvis de Notre-Dame, qui a été achetée par ma tante hongroise Aniuka, qui elle collectionnait des mini David, des faux petits Picasso. Et ça appartenait à son Paris qu'elle s'était créé en arrivant de Hongrie.
J'attends vos témoignages, vos anecdotes, peut-être votre synonyme préféré du mot moche, tenez, chers auditeurs et auditrices. Appelez-nous au 01 45 24 7000 ou laissez-nous un message sur le site et sur l'application France Inter.
Rien à foutre d'être dans le coup, je préfère nager chelou en tant que victime. Avec moi et mes peines orphelines, laissez les gens parler dans le fond. Gars, laisse-moi là dans le flou. Tu verras, je peux faire de grandes choses avec mon spleen. Pas besoin de faire comme tous ceux qui se confondent. J'ai de l'or dans mon moleskine. À refaire, je ne serai pas celui qui se plie pour tenter de plaire. Je serai celui hors des critères qui choisit son temps. À refaire, je serai plutôt celui qui se met en avant et fier. Ce qu'on n'a pas voulu. C'est trop longtemps laissé taire. À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les païens, oh, les exclus, oh, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Free. Quand je nage dans les rues, as-tu vu mes écorces là qui me protègent à mon insu? Vu sentir mes balafres contre les casses, toi tu pues. Moi je ne marche plus à l'ombre. Moi je ne marche plus à l'ombre. J'ai mis dans les magazines toutes mes tares qu'on se le dise. Je compte encore m'en servir, les remettre dehors que ça brille. À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les païens, oh, les exclus, oh, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Free.
C'était Eddie de Préto sur France Inter. L'été comme jamais célèbre le moche ce matin. Ou plutôt, nous interrogeons ce que ce mot raconte de celui ou celle qui le prononce avec Mohamed El Khatib, dramaturge, et Alice Pfeiffer, qui est journaliste de mode et qui publie chez Flammarion Le goût du moche. Pourquoi vous intéressez-vous au moche et pas au lait, Alice Pfeiffer? Et quelle est la différence, s'il y en a une?
Alors le moche, moi ça m'apparaissait infiniment plus rigolo que le laid. Le laid, c'est en binarité parfaite, je pense, avec le beau, dans sa notion qui est presque biblique, presque grandiose, qui est diabolique, qui est affreux. Le moche, c'est le petit frère ridicule, c'est un peu raté, c'est plutôt attendrissant, c'est quelque chose qu'on a envie de chatouiller sous le menton plutôt que de fuir. Et après des années de beau glorieux dans la moche, dans la mode,
et pas dans la moche.
De moche qu'on a souvent vu, enfin plutôt du laid qu'on a vu, je pense que se rapprocher du moche, c'était un exercice qui désamorçait un peu le milieu de la mode, qui se prenait extrêmement au sérieux.
Il y a une ironie pour une journaliste de mode à s'intéresser au moche, peut-être une forme de second degré qui n'est pas accessible à tout le monde.
Alors ouais, il y a du second degré, il y a toute une question plus politique de ce que ça fait de moi en tant que journaliste de mode de débarquer un défilé de mode avec des crocs aux pieds par exemple. Alors est-ce que c'est punk? J'avais très envie de me trouver merveilleusement punk au début, je me suis vite aperçu que c'était un peu plus complexe que ça et peut-être moins glorieux.
Mais c'est tout autant une posture que de mettre une fringue à la mode.
Alors oui, mais ça vient aussi de quelqu'un qui quelque part n'a pas peur de que ce soit lui au premier degré sur ses pieds. C'est quelqu'un qui a pas peur de ne pas rentrer. Donc c'est finalement une marque de snobisme où je montrais finalement un sens suprême d'appartenance et non pas un sens de détachement.
Vous proposez plusieurs sous-catégories du moche dans votre livre, le ringard, le vulgaire, le laid, le dégueulasse, ce ne sont pas exactement des synonymes de moche.
Non, c'est plutôt des moments dans le moche, des moments que j'ai traversés à travers mon adolescence. Il y a par exemple le vulgaire qui m'intéressait particulièrement parce qu'il dénote à la fois d'un mépris de classe et d'une forme de sexisme. C'est-à-dire que ça décrit à la fois un peuple venant de vulgus, qui vient du peuple, mais aussi une fille qui se conduirait pas comme il faut. Du coup, cet amalgame entre classe et genre me semblait absolument fascinant. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait touchée quand j'avais 17-18 ans et d'où le string était rentré dans ma collection préférée, mais qu'on associe à Loana, qu'on associe à la télé-réalité, aux anges de la télé-réalité, donc une pratique du moche qui passerait aussi par l'intime.
Je dois me rendre à l'évidence, écrivez-vous, ce que je trouve moche, peu importe si cela me fait jubiler ou me répugne, est le reflet de mes propres privilèges. Expliquez-nous ces privilèges, Alice Pfeiffer.
Bah, quelque part, pareil, si je porte quelque chose qui serait aujourd'hui absolument hors du vestiaire républicain, j'ai pas peur.
Le vestiaire républicain.
Ce fameux. Ouais. J'ai pas peur. C'est pas un corps qui se sent en danger. C'est pas un cœur qui a peur, qui va se faire accoster. C'est quelque chose qui finalement circule dans un endroit privilégié qui n'aura pas le traitement d'une fille qui peut, dans un contexte patriarcal, qui peut se faire potentiellement attaquer, arrêter, siffler, huer, ploter. Donc, c'est un corps qui passe à travers toutes ces mailles-là.
C'est un objet qu'on dit volontiers kitsch, laid, ridicule ou moche, évidemment. Et si la boule à neige racontait un univers?
J'étais au sport d'hiver avec ma femme, poupou, dans un village le plus haut d'Europe. Et dans une boutique, il y avait une boule à neige.
Je ne suis pas obsédée, justement, parce que j'en ai tellement que quoi qu'il arrive, j'ai assez de satisfaction.
Ça, si je suis roi du pétrole, mais je ne sais pas si je suis roi du pétrole, ce serait la plus ancienne boule à neige connue au monde, mais on serait quelques-uns d'en avoir une, qui serait la boule à neige de l'exposition universelle de 1889.
Mes parents étaient des enseignants qui, à l'époque, sans doute auraient considéré ça comme peut-être une faute de goût, d'avoir des boules neigeuses. Moi, j'ai des goûts, j'ai du goût, qui est peut-être du mauvais goût, mais j'ai un goût.
Et ce qui est intéressant, c'est que la boule à neige sans le geste, ce n'est pas la boule à neige. Ah oui, il y a quelques boules à neige dont je ne me séparerai pas. Je les emmènerai dans mon cercueil en forme de boule de neige.
Extrait de votre spectacle, Mohamed El-Khatib, avec Patrick Boucheron, Boule à neige, des rencontres avec des collectionneurs et des collectionneuses qui interrogent le bon goût. C'est fascinant ce que vient de dire cette dame. J'ai un goût. C'est peut-être un mauvais goût pour ses parents, mais c'est une forme de goût. Vous dites aussi dans ce spectacle avoir passé votre jeunesse à lutter contre vos propres goûts musicaux notamment.
Je me suis rendu compte que, par exemple, très concrètement, si je suis invité à une émission de radio et qu'on me demande de choisir une musique, je vais proposer des sonates de Schubert, alors que à la maison, j'écoute Cabrel ou que j'écoute Diego Maradona chanter maladroitement La Mano de Dios, etc. Mmh. Et donc, j'ai passé mon adolescence à réviser mes goûts culturels pour les rendre acceptables. Et que du coup, la question, le prétexte des boules à neige, c'était de se dire, mais comment je peux avoir la liberté d'aimer ce qui me touche vraiment et de l'assumer?
Est-ce que quelqu'un l'a, cette liberté? Est-ce qu'il existe un milieu où on l'a?
Non, je crois qu'il y a une vraie pression sociale. Mmh. Il y a une vraie tyrannie.
Quels que soient les milieux.
Quels que soient les milieux, il y a une vraie tyrannie du goût. Après, simplement, les goûts, quand même, arrivent plutôt par le haut. Et qu'on passe notre temps à singer les goûts distinctifs, disons, bourgeois, pour dire vite. Et ça va, simplement, ça déborde le champ de l'art. Ça va jusqu'à la façon dont on nomme nos enfants. Et je pense au Kevin, au supporter de Lens avec qui j'ai travaillé. Et dans le fond, Kevin, c'est aussi ridicule, ça n'est pas moins ridicule que d'appeler son enfant Hippolyte.
Ah oui, effectivement. Donc là, pareil, le prénom comme jugement de valeur. La boule à neige... Finalement, est-ce que vous la réhabilitez dans ce spectacle, Mohamed El-Khatib, puisque vous dites que le bon goût vient du haut, elle vient aussi d'un dramaturge comme vous. Oui, il vient aussi d'un dramaturge.
C'est une façon de questionner
vous.
La valeur. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur? Et la plupart du temps, dans le milieu artistique, la valeur, elle vient du prix. C'est le marché ou le musée qui, parce qu'il choisit une œuvre, la qualifie, fait croire que naturellement, elle a des qualités objectives qui relèveraient du beau. Mmh. Et donc, c'est une façon de questionner ça, de remettre en question le système en disant, mais finalement, la valeur, elle peut être affective, elle peut relever de la tendresse, elle peut relever de la nostalgie, et elle a pas moins de valeur que les critères objectifs, qui sont des critères dominants la plupart du temps.
Et d'ailleurs, la boule à neige est rarement très chère, mais peut-être ça, c'est contredit par les collectionneurs que vous avez rencontrés.
Oui, et puis par la façon dont le marché de l'art contemporain récupère absolument tout avec un cynisme absolu, et que depuis que des boules à neige sont signées par Jeff Koons et Maurizio Cattelan, alors d'un coup, voilà, on se met à spéculer sur les boules à neige.
Alors vous parlez justement, Alice Piper, dans votre livre Le goût du moche, de cette manière dont Jeff Koons récupère la boule à neige. Vous y voyez une forme de cynisme?
Absolument, je pense qu'encore pire que la mode, parce qu'un des milieux les plus durs que j'ai rencontrés, hormis la presse de mode, c'est vraiment la presse d'art et la tyrannie chez Art Press. Et ouais, c'est si on le récupère, mais qu'on le vend à très 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 haut prix, avec une espèce de méta-lecture qui verrait toute une critique sociale dirigée vers des gens qui auraient la conscience de cette nouvelle lecture, finalement l'extrait de la classe d'origine, on se sert de finalement d'un geste populaire pour encore plus l'aliéner. Et on revient jamais à la source de l'emprunt, c'est-à-dire que ce sera à tout jamais arraché aux mains de la personne qui l'a inspiré.
Donc je pense que Jeff Koons trouve que les boules à neige sont belles, naturellement, sincèrement et au premier degré. Est-ce une hypothèse possible?
Peut-être, dans ce cas, il passerait pas par une case curatoriale. Il passerait pas par sa propre lecture. Est-ce qu'il mettrait en scène une boutique intouchée? Mais le fait qu'il laisse sa patte quelque part, c'est qu'il a besoin. Il s'imagine que la boule a besoin de sa relecture pour y gagner de valeur.
Une auditrice a appelé le standard de France Inter. Bonjour à vous, Caroline.
Oui, bonjour. Je vous écoutais. Du coup, moi, j'ai tout de suite pensé au summum du moche pour moi. C'est les plats et les vases Valoris qu'on trouve beaucoup aujourd'hui en brocante et que j'achète parfois parce que ma mère en fait collection.
À quoi ça ressemble?
Alors, c'est par exemple, les vases, c'est les plats. Ils sont marrons, ils sont orange souvent, et des fois, enfin, ils ont des couleurs complètement improbables qui se mélangent. C'est très étrange. Je vous invite à regarder vraiment sur internet les vases ou les plats Valoris, et on en trouve beaucoup en brocante. Alors ça vaut plus grand chose aujourd'hui, et c'est un objet moche que je trouve très moche, mais que j'affectionne particulièrement. C'est très étrange de pouvoir dire ça. J'adore. J'en ai un chez moi qui est orange et marron comme dans les années 70 quand j'étais petite. Et je trouve ces objets très moches et à la fois très, très pas beaux, mais très attachants et très intéressants.
Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous les aimez au second degré.
Tout à fait.
Et vous vous sentez, ça vous fait une impression bizarre, ce goût au second degré?
Ça me fait une impression bizarre, oui. J'en ai vu encore dimanche dernier, c'était un plateau de fromage avec une chèvre dessus. Et tout de suite, j'ai l'œil, tout de suite, je fais « Oh, c'est un Valoris !» Alors je l'ai retourné, il était signé « Valoris ». Et du coup, j'ai envoyé la photo à ma mère en lui disant « Veux-tu que je l'achète ?» Oui, c'est particulier. Et je pense que ça me rappelle aussi mon enfance, une époque.
Avez-vous l'impression de vous moquer de ceux et celles qui apprécient ces vases
non,
et ces assiettes?
j'ai plutôt l'impression de me moquer, bah, oui, d'une certaine façon, de moi-même. Mmh. Je me trouve drôle à la fois trouver quelque chose, un objet moche, et à la fois l'aimer et pouvoir l'acheter, le mettre chez moi.
Merci beaucoup, Caroline, d'être intervenue en direct dans l'été comme jamais. Mohamed El-Khatib, vous êtes très attaché, très touché par les collectionneurs. Qu'est-ce qui vous séduit dans la démarche du collectionneur?
Bah, c'est leur liberté. C'est leur liberté, c'est leur capacité à être émancipée de toute forme de culture légitime et de poursuivre leur propre goût. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que Mireille, dans le spectacle, elle dit, je vais vous faire une confidence, j'ai un mépris profond pour les collectionneurs de timbres.
Ça, c'est hilarant.
Et c'est quand même extraordinaire.
Elle collectionne les boules à neige, hein.
Tout
elle
à
en
fait.
A des milliers.
Et du coup, ça m'envoie cette question qui fait que, qui interroge mon propre mépris à moi, qui passe mon temps à classer, à qualifier, à disqualifier. Et en disant, mais, dans le fond, de réhabiliter le premier degré ou de refaire c'est une forme de plaidoyer pour les pratiques populaires, parce que la plupart du temps on entend des gens dire oui mais il faut défendre les classes populaires tout en dénigrant ce qui les intéresse.
Comment éviter Mohamed El-Khatib le voyeurisme, le folklore, l'instrumentalisation, pour le dire de façon un peu abrupte, comment éviter de se moquer des pauvres avec un tel spectacle?
Je crois que c'est la question de la sincérité, de l'engagement, quoi, dans un rapport d'égalité, et d'accepter, de relativiser ses propres goûts et de commencer par remettre en question ses propres goûts. Comment est mon intérieur? Comment c'est chez moi? Quand ma mère débarquait chez moi, qu'elle trouvait ridicule l'aménagement un peu indus, bobo, etc. Mm. Et comment faire cette propre déconstruction chez soi et du coup embrasser les autres avec générosité? Moi, il me touche beaucoup, ces collectionneurs. Et je suis au premier degré. C'est-à-dire au-delà de quelque part le second degré, vous faites un peu le malin. Et j'arrive à, enfin, il faut essayer de se débarrasser de ça et de se dire dans le fond, qu'est-ce qui est vain et qu'est-ce qui est important.
Écoutons Margot, elle a laissé une note vocale sur l'application France Inter.
Un objet moche, c'est quand on n'arrive pas à comprendre pourquoi quelqu'un peut apprécier cet objet.
Ah, voilà une définition intéressante, Alice Pfeiffer. Quand on ne comprend pas pourquoi quelqu'un peut l'apprécier, ça vous va?
Ah oui, il semble que c'était Bourdieu qui disait le dégoût, non, le goût du moche. En gros, c'est le dégoût du goût des autres. Donc c'est, ouais, effectivement, c'est pas comprendre ce qu'on a pu voir, essayer de comprendre presque les limitations et les parois des fantasmes de quelqu'un, de que quelque chose soit un tout petit peu trop lisible, qu'il y ait des posters marqués New York, que ce soit... Et moi, c'est ce que je trouve le plus attendrissant. Encore une fois, pour revenir à ma vieille tante, c'était quelque part, c'était... On voyait très clairement quelque chose qu'on aurait qualifié de nouveau riche à une époque, ou qu'on aurait qualifié de parvenu, qui tentait de ressembler à une aristocratie, une bourgeoisie à laquelle elle appartenait pas, en se recréant le Louvre à domicile. Donc c'est de voir quelque chose, oui, une volonté d'escalade sociale peut-être, à laquelle on n'arrive que mal, de façon boitillante. Donc je pense que, est-ce que c'est ridicule ou est-ce que c'est quelque chose de sincèrement ému?
Le goût finalement se forge toujours en réaction aux autres, par mimétisme ou par rejet des autres.
Oh, tout à fait, oui, il y a absolument pas de beau absolu. Je sais pas dans quelle mesure, pourquoi est-ce que le boulevard Haussmann serait magnifique, que l'arbre brutaliste et les barres d'immeubles brutalistes le seraient pas, pour finalement retomber, comme vous le disiez, sur un intérieur industriel qui aurait fait fuir les parents quelques années avant. Donc il y a une circulation qui est hyper intéressante dans les fantasmes et dans les mouvances sociales aussi que font les parents lorsqu'on grandit.
Nous interrogeons le moche ce matin, dans l'été comme jamais, avec vos messages, vos témoignages et vos réactions sur le site de France Inter, à la page de l'émission. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Dream.
dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Macass sur France Inter. Dream a little dream of me.
France Inter, l'été comme jamais.
De jolis messages d'auditeurs et auditrices sur le site et l'application France Inter. Daniel nous dit que son synonyme favori pour moche, c'est tartignol. À la fois ringard et rigolard, dit-elle. Je possède une magnifique collection de magnettes sur le frigo qui fait l'horreur de mon mari, nous écrit Gaëlle. Le frigo a changé, mais les magnettes sont restées. J'aime aussi les mugs de la Royal Family anglaise. Et puis, j'aime beaucoup aussi ce message de Sophie qui nous dit que depuis qu'ils sont tout petits, ses enfants se disent « t'es moche » quand ils se taquinent, et pour eux, ça veut dire « je t'aime ». Alice Pfeiffer, autrice du goût du moche, aux éditions Flammarion, ça vous plaît, j'imagine, cette manière de se dire « je t'aime ».
Ah ouais, c'est très mignon. On revient au vilain petit canard qui est finalement le préféré. Mmh. Mais de toute façon, c'est drôle de dire « c'est moche ce qu'il t'a fait, ah c'est moche mmh. ». Ça porte aussi une valeur impalpable finalement, mais je sais pas exactement d'où ça viendrait parce que...
C'est moins grave que méchant quand on dit qu'une action est moche.
Ouais, oui, mmh. oui. Qu'est-ce qui pourrait être moche aujourd'hui? Non, et puis pour les enfants, les enfants se traitent pas. Le mollet est presque trop formel pour eux. Qu'est-ce que ce serait? Les jouets pour enfants sont particulièrement laids. Moi, je pense aux poupées Bratz, qui sont particulièrement laidies, qui sont des espèces de poupées avec des yeux énormes. Moi, je joue avec de la pâte à paix, du gac quand j'étais petite.
La pâte à paix, en effet, c'est pas très joli. Vous êtes franco-britannique, Alice Pfeiffer. Le mot ugly a-t-il une consistance différente que le mot moche, selon vous?
Bah, ugly, ça veut dire c'est moche et laid à la fois. Ouais. Mais ugly, non, ça me fait penser à la campagne Hug, qui s'était dit Hug comme ugly.
Ouais.
Et donc
les espèces de bottes en fourrure, c'est ça? Les
c'est ça qui était pensé pour des surfeurs australiens.
Donc c'était censé être moche. Hug.
Oui.
Ça vient d'ugly.
C'était un moche revendiqué parce qu'il dont la valeur principale serait pas d'être beau, mais d'être pratique. Ouais. Donc de servir une fonction avant de servir une fonction esthétique.
Et des bottes au bout de la neige, il n'y a qu'un pas. Nous sommes en ligne à présent avec un historien, professeur au Collège de France. Bonjour Patrick Boucheron.
Bonjour.
Bienvenue. Vous montez sur scène avec Mohamed El-Khatib, ici présent, dans ce spectacle Boule à neige que vous avez créé ensemble. Alors évidemment, puisque vous êtes historien, j'ai envie de vous demander de quand datent les boules à neige. Connaît-on la boule zéro? Mais comme j'ai vu ce spectacle, je sais que cette question des origines vous énerve et vous amuse. Pourquoi la boule zéro n'est-elle pas importante, Patrick Boucheron?
Parce que ce qui compte, c'est celle qu'on a autour de nous. Et c'est le rapport qu'on entretient avec ce qui nous environne. Au fond, vous avez entendu Mohamed El-Khatib, il a décrit, je dirais, les conditions de notre rencontre. C'est-à-dire une réflexion sociale ou sociologique sur le goût, le bon goût, le mauvais goût, que moi, en tant qu'historien, je peux dater, parce qu'on s'est rencontrés au moment je dirais, des gilets jaunes. Hein. C'est-à-dire du moment où on se posait la question de ce dédain culturel des élites pour les classes populaires qu'elles prétendent défendre. Et cette question, mais est-ce que vous vous moquez pas, c'est une question qu'on a posée à Mohamed, notamment après Stadium, et voilà, c'est des
donc
choses...
Donc Stadium, je le précise, c'était un spectacle qui faisait monter sur scène des supporters et supportrices du RC Lens, le club de foot lensois.
Voilà. Voilà. Et la question, au fond, je vous ai écouté et je me dis, si je, comme je suis à distance, je peux exprimer un désaccord. Je ne crois pas qu'on puisse aimer au second degré. Voilà. Et en vous écoutant, j'ai mieux compris ce qui nous a rapprochés avec Mohamed. Moi, par exemple, je vais commencer à parler de moi parce que finalement. C'est le mouvement même hein, de ce spectacle où je me dis, moi, je vais pas vous raconter l'histoire de la boule zéro, mais je veux bien vous raconter mon enfance. En gros, c'est ça, puisque, comme vous l'avez dit, c'est une question d'enfance et d'innocence, la boule à neige. Moi, j'ai eu 20 ans dans les années ricanantes, les années 80, les années publicitaires, les années cyniques, en fait. Et donc, le second degré est ma langue maternelle. Voilà. Longtemps j'ai pensé qu'on ne pouvait pas parler autrement qu'au second degré. Et on se prend les pieds dans le second degré parce que on n'est pas compris ou on est trop bien compris et c'est gênant. Et alors on dit mais non, j'ai parlé au troisième, au quatrième degré. Puis à la fin on se trouve seul et surtout à la merci du premier ridicule venu. Voilà, ça c'est vraiment la morale du grand siècle. Je vous ai entendu parler de Pierre Bourdieu. D'une certaine manière, Bourdieu est un moraliste du XVIIe siècle. Voilà, c'est pour ça qu'il a écrit les méditations pascaliennes. Et moi, ça m'a beaucoup frappé. Et je me dis que peut-être que ce spectacle, c'est un adieu au second degré. Parce que, au fond, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de passer de cet objet à une sorte d'anthropologie du contemporain. Et où moi je vais faire mon métier hein, d'historien et où je répondrai pas à cette question de quand date la boule à neige, même si en gros
mais vous le faites
à la fin du 19e siècle
voilà.
Mais je vais essayer de dire à la fin du 19e siècle il s'est passé quelque chose avec la divination, avec le deuil, voilà une manière de rendre palpable et mémorable son chagrin, et ça se termine comme ça, par une sorte de cérémonie du deuil.
Vous faites une très belle définition du métier d'historien dans ce spectacle. C'est quelqu'un à qui on demande de raconter la première fois, c'est quelqu'un qui répond non, et qui le fait tout de même, Patrick Boucheron. La boule à neige serait-elle une capsule mémorielle, Mohamed El-Khatib ? Vous posez une question malicieuse dans ce spectacle. Que penseront les archéologues du futur qui tomberont sur une boule à neige ? Qu'est-ce que ces bibelots révéleront de notre civilisation, Mohamed El-Khatib.
C'est vrai que c'est quelle histoire on va raconter plus tard. Et la plupart du temps, quand les archéologues tombent sur des objets et qui ne savent pas trop quoi en penser, souvent ils les rattachent à la religion. Et c'est vrai qu'après tout, ces petits objets, ces petits bibelots, c'est rien d'autre que des autels portatifs, quoi. Des autels portatifs qui racontent la façon dont on va mourir, dont on peut mourir. Et ça a été assez amusant pour nous de se dire que ces objets anodins sont en fait chargés d'histoire et de questions fondamentales, comme aujourd'hui on vit un bouleversement qui est qu'on va passer on passe de l'inhumation à la crémation de façon extrêmement radicale et qu'on n'en parle pas. Et donc qu'est-ce qu'on va faire de ces cendres? Et puis quand on est tombé sur des collectionneurs, on a vu qui mettaient les cendres de leurs parents dans des boules à neige à l'effigie de leurs parents. On s'est dit, tiens, c'est une pratique révolutionnaire. Et qu'est-ce qu'on va penser de nous dans 4000 ans?
Les boules à neige seraient les ruines de l'avenir. La question du moche se pose-t-elle face à un vestige, Patrick Boucheron? Est-ce qu'on se demande si les reliques du passé sont belles ou pas?
Eh ben non, précisément, on ne se pose pas cette question parce que on est face à ce passé, croit-on, détaché. On pense qu'on n'est pas pris dans ce vestige, alors qu'on pourrait se poser cette question. La question des archéologiques face à un objet, c'est celui de son usage, et c'est pour ça que on joue sur scène, comme le suggérait Mohamed, à se faire les archéologues du futur et à inventer des fonctionnements le plus souvent religieux, cultuels, à des objets qu'on feint de ne plus reconnaître. Mais ce faisant, et c'est ça aussi, je dirais, une démarche de connaissance, on suggère aussi quelque chose qui part... là, pour le coup, c'est pas une parodie, puisque ça n'a pas eu lieu, mais le décalage attendrissant, eh bien, dit quelque chose de notre contemporain. Par exemple, on se met en situation, dans 2000 ans, de retrouver sur la Terre à la fois des très grands objets, comme des stades, et partout des stades, et pareillement des stades, d'une architecture mondiale, et puis des boules à neige partout. Mmh. Et on se dit, ben, les archéologues vont peut-être faire le lien entre ces grands objets et ces petits objets, et faire le lien, en latin, ça se dit religio, donc ça veut dire religere, donc ça veut dire inventer une religion. Et à ce moment-là, Mohamed fait voir une boule à neige de Maradona en disant, bah voilà, c'est pas si absurde au fond. Si les archéologues du futur concluent de ce qu'ils découvriront des décombres de notre propre civilisation, que la religion mondiale à ce moment-là c'était le football, ils diront quelque chose que nous, on ne dirait pas de nous, mais qui n'est pas si absurde, au fond, et qui peut-être même révèle une vérité inaperçue de notre présent.
Ils diront quelque chose qui serait faux tout en étant vrai, finalement.
Voilà, ouais. Et qui n'est pas au second degré. J'insiste là-dessus.
L'abolition du second degré.
Décrit frontalement, voilà, c'est ça, c'est cet adieu au second degré qu'on célèbre sur scène.
Merci mille fois Patrick Boucheron. Je recommande au passage l'émission que vous proposez sur Arte, disponible en replay sur le site de la chaîne. Ça s'appelle Faire l'Histoire, émission captivante dans laquelle vous abordez justement l'histoire par le prisme des objets, et notamment la boule de loto. Voilà, beaucoup de rondeur décidément dans les objets qui vous intéressent en ce moment. Bonne journée, à bientôt.
Merci à vous, bonne journée.
On va prendre un auditeur en ligne à présent. Bonjour à vous Théo.
Bonjour.
Bienvenue. Pourquoi nous appelez-vous sur cette émission autour du moche?
D'abord, je viens juste d'entrer dans l'émission car je suis en train de préparer un mémoire de recherche autour du moche et du mauvais goût. Et donc, des amis m'ont envoyé en mode « vite écouter ça ». Ça m'a fait rire. Et donc, j'appelais parce que moi, le moche, quelque chose qui me touche beaucoup car je m'habille moche. J'ai commencé plutôt de manière second degré parce que ça me faisait rire, mais assez vite, c'est devenu totalement premier degré des choses qui me plaisent réellement, que j'aime, que j'apprécie, et qui sont devenues une réelle part de mon identité.
Donc ça n'est plus moche, mon cher
non,
Théo.
Non, pour moi, ce n'est plus moche, on me le dit, mais pour moi, ça ne l'est plus.
Vous aussi, vous avez aboli le second degré. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors évidemment, tout cela pose la question de la mode. On va passer une tête, si vous le voulez bien, dans le temple du bon goût, autoproclamé le monde merveilleux de la mode.
Deux cintres sur la tête, si tu arrives à les faire tenir, eh bien, c'est une tenue. On récupère les jouets du petit et on se les colle dessus. Buzz l'éclair pour pas cher. Ou guitare héros pour une robe de mariée régressive et sympa. Ça s'appelle des robes diversion. Si tu as un bouton énorme sur le nez, tu mets ce chapeau de Vivienne Westwood et hop, tu détournes l'attention. Bon vieux truc de rédactrice.
Comment est-ce qu'on se prépare pour la Fashion Week?
On s'achète des petits looks, des petits vêtements de designer un peu forts. Comme ça, quand on est fatigué, les gens vous parlent de vos habits et pas de votre tête.
Un extrait de 52 minutes de mode, documentaire de Loïc Prigent, diffusé sur TMC. Ce journaliste, Alice Pfeiffer, est passé maître dans l'art de relever les petites phrases entendues en marge des défilés, et notamment, par exemple, parmi 1000, « C'est tellement moche, on dirait une fringue de l'an prochain ». Ou encore, « Quand la collection est moche, on augmente le prix, les clientes ne peuvent pas résister quand c'est cher ». J'ai l'impression qu'il faut très bien connaître la mode, et même la respecter beaucoup pour s'en moquer de façon juste. Êtes-vous d'accord avec cette idée, Alice Pfeiffer?
Ce qui est sûr, c'est que Loïc Prigent a un regard absolument averti et extrêmement juste sur la mode. C'est-à-dire qu'il y a rien d'inventé, il y a rien de caricatural, il y a rien de grotesque. C'est toujours un peu gênant quand on soit même journaliste de mode et on voit le film qui parle de mode, comme j'ai vu Cruella récemment, parce que j'ai 12 ans et demi. Mais c'est très brouillon comme travail de recherche. Et là, tout est exactement là. J'ai entendu ce genre de phrase depuis des années. J'ai une rédactrice qui m'avait dit « T'es chic, on ne te reconnaît pas ».
T'es chic, on te reconnaît pas. Ouais, c'est gentil. Sympa, ça.
Oui. J'ai tout entendu. C'est pas moche, c'est 2022.
Oh, c'est super ça.
Oui, j'étais à une fête déguisée et le thème c'était 2017, il me semble.
Ah.
Oui, on s'était habillé comme il y a 3 ans.
Ah, d'accord. Donc des fringues complètement ringardes.
Complètement ringardes. Regarde, il y a 2 ans, effectivement. Oui, poubelle. Ouais. Donc non, c'est très juste. C'est ça qui est le plus drôle chez lui, c'est que ça fait autant rire les non-avertis que les avertis.
Mais alors, je me demande à vous entendre, qu'est-ce que vous faites encore dans ce milieu? Vous êtes critique et journaliste de mode. Vous aimez toujours la mode, Alice Pfeiffer?
Alors, je trouve ça... Déjà, c'est formidable parce que ça demeure un milieu queer, un milieu où on peut réinventer énormément de rôles de genre, d'incarnation genrée, de féminité, où c'est un milieu d'expression pour beaucoup de jeunes créateurs. Et surtout, je pense quand même qu'il faut ne pas trop aimer quelque chose pour bien le faire. Si on a peur terriblement de le perdre à tout instant, c'est qu'on le sacralise et quelque part, on n'en fera pas une très bonne critique.
Vous associez dans votre livre votre goût du moche à une revendication féministe. Quel chemin passez-vous pour cela ?
Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tous les écrits de Susan Sontag autour du camp, autour du queer, autour du grotesque, du corps atypique, du corps que l'on mégenre. Donc je pense qu'il y a un parcours de gender studies qui m'a mené.
Études de genre, donc.
Études de genre, oui, exactement. Qui m'a mené à avoir un regard un peu critique de tout ce que la mode pouvait offrir de déguisement comme zone de négociation avec ce qu'on laisse avoir de soi. Donc je pense que oui, c'est pas par la voie du queer et pas par la voie du genre que le vêtement devient un attirail, un outil de pouvoir, une identité qui peut être lourde de sens, une féminité réappropriée, une féminité comme arme de combat. C'est ce qui moi-même a été plein d'expérimentations dans le genre et dans les codes féminins.
Mohamed El Khatib, seriez-vous terrifié à l'idée que la boule à neige devienne à la mode?
C'est-à-dire qu'il faut être en perpétuel mouvement puisque tout est récupéré en permanence. C'est-à-dire dès que la boule à neige redeviendrait tendance, alors il faudrait partir en courant et choisir un autre objet. Et en permanence comme ça, à chaque fois qu'un objet est rattrapé, donc c'est-à-dire qu'il est consacré par une opération de sacrement, par les artistes. Ouais. Ça marche comme la religion. Hein,
ce que vous faites, c'est une opération de sacrement avec ce spectacle.
Ou plutôt de remise en question de ce qui est consacré. Et puis c'est comme l'eau qui devient de l'eau bénite, là. Et donc c'est de questionner ce geste de consécration, et puis reprendre la tangente et repartir sur d'autres valeurs, et émettre un doute en permanence sur ce qui est beau, sur ce qui ne l'est pas.
Il y a un collectionneur formidable dans votre spectacle qui s'appelle Joseph, je crois, et qui dit qu'il tient absolument à ce que ce soit kitsch, ces boules à neige. Si c'est beau d'une manière ou d'une autre, ça l'embête. Il faut que ça fasse mal à voir.
Oui, c'est-à-dire qu'il a une forme de jouissance dans ce qui est disgracieux. Et c'est assez beau, la disgrâce. C'est-à-dire, c'est une remise en question de ce qui est frappé par la grâce. Et on revient aussi aux valeurs religieuses, aux valeurs morales. Tout à l'heure, on disait, ce que tu as fait, c'est moche. Parce qu'il y a un arrière-fond comme ça, religieux, moraliste. Et c'est une façon aussi de se défaire et de s'émanciper de toutes les formes de sacrements.
Gilda nous écrit un message sur le site d'Inter. Les boules à neige sont des objets atypiques, ni moches, ni belles. Il existe même des boules à neige pour des régions où il n'y a pas de neige. Celles-ci sont collées. Lecteur. La boule à neige est une représentation d'un endroit à un instant T et il propose de créer un FLB, Front de Libération des Boules à Neige, pour les ramener à la montagne et non les laisser sur une étagère dans un magasin de souvenirs.
Alors d'abord, il existe déjà des cercles internationaux de collectionneurs, donc il y a déjà des organisations et des lobbies puissants de la boule à neige. Mais je crois qu'il faut essayer de moins formaliser, de surtout ne pas institutionnaliser quelque chose qui serait de l'ordre du moche et de le laisser comme ça, un peu fuyant.
Mais c'est pas simple de rentrer dans le cercle des collectionneurs de boules à neige. Combien de boules faut-il pour y entrer?
C'est 3000 boules, le seuil, le ticket d'entrée.
Il y a 3000 boules.
Mais c'est assez beau que d'un coup, il y ait des barrières, des frontières, qui sont pas les frontières habituelles, qui est une forme de discrimination presque par le bas. Et ça remet en question finalement les valeurs dominantes et la révérence habituelle à ce qui a de la valeur.
quelle est votre boule à neige préférée, Mohamed El Khatib, parmi les dizaines que vous me faites monter sur scène dans ce spectacle?
Écoutez, je l'ai cassée par accident. C'est une double boule à neige qui est très rare, c'est de la ville de Sienne. Et j'y tenais beaucoup parce que aussi Sienne, c'était l'objet d'étude de Patrick Boucheron. Mmh. Et j'ai cassé cette boule. Enfin, d'abord, et puis il y avait aussi une valeur. Alors que je suis contre, enfin qui valait quand même 1 800 euros.
Ah oui.
Mais surtout, il y avait un attachement historique, politique à cette boule qui est celle où on a vu le premier confinement à Sienne. Mmh. Et ce spectacle, on l'a créé en plein, nous, à notre premier confinement. Et donc, la boule était bouclée, quoi, d'une certaine façon. Et ça m'a fait mal au cœur de casser cette boule.
Moi, ma préférée, c'est celle de Joseph, encore lui, qui vous montre une boule avec la statue de la liberté. Il est écrit Hollande dessus. Voilà. Il y a aussi des erreurs géographique parfois dans les boules à neige. S'appelle Nettoyage à sec, et pourquoi pas les Britanniques de Dry Cleaning sur France Inter. Nous approchons de la fin de cette émission. J'ai une dernière question à poser à mes invités, le dramaturge Mohamed El Khatib et la journaliste de mode Alice Pfeiffer. J'aimerais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis, Alice Pfeiffer.
Oh, absolument, le fait que je me prenais, comme je disais, pour une petite punk que je ne suis pas du tout, et que finalement je suis une bourgeoise qui se déguise, j'imagine, que j'avance masquée. Mais oui, que finalement les crocs pouvaient être un signe d'oppression autant que de liberté. Donc ouais, j'ai arrêté de me trouver formidable, je pense, au passage du livre.
Mais c'est assez sain. Mohamed El Khatib, y a-t-il un sujet sur lequel vous avez changé d'avis?
Bah pas, je passe mon temps à changer d'avis. Et j'aime assez ça, j'adore me laisser convaincre.
Exemple parmi d'autres.
Je suis très attaché à ma Renault 12 et je me suis dit je la vendrai jamais. Et puis finalement voilà, elle est en vente et puis je me suis dit je resterai toute ma vie à Paris et puis finalement je vais m'installer à Marseille.
Vous avez consacré un spectacle à cette Renault 12 d'ailleurs.
Ouais, un film. Mmh. Ouais. Ouais.
Merci beaucoup à tous les deux. Boule à neige, votre spectacle créé avec l'historien Patrick Boucheron, Mohamed El-Khatib, est en tournée à la rentrée. Un spectacle aux allures de conférence, dialogue hein, entre l'historien et vous. C'est aussi drôle et émouvant qu'érudit et généreux. Les 10 et 11 septembre au Mucem de Marseille, fin octobre à Nantes, en décembre à Aix-en-Provence et à Rennes. Plus de détails bien sûr à la page de l'émission sur le site de France Inter. Le goût du moche, le livre d'Alice Pfeiffer, est à lire chez Flammarion. Pour en savoir plus sur la collection d'Alice qui vaut son pesant de cacahuètes, mais surtout pour s'interroger sur ce que le mot moche porte en lui de transgression et de domination culturelle. Merci beaucoup, bonne journée à vous deux, à bientôt sur Inter. Je remercie la bigrement chouette équipe de L'été comme jamais, Anne-Cécile Perrin à la réalisation, Margot Page et Mao de Butler à la préparation, aidée de nos stagiaires Marie Aubert et Tiffaine Mendès. Programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la technique ce matin Clément Berman.